I don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
¿Cuál sería su reacción?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民咱们家正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à 11h50, comme chaque vendredi. Eh bien, nous sommes avec nos partenaires de Libération, Marc Semo, bonjour.
Bonjour.
Marc Semo, ce matin, émission spéciale, puisqu'on va consacrer entièrement cette émission à la Chine et aux défis qui l'attendent. Et ils sont nombreux, l'économie, la croissance chinoise est en phase de ralentissement, 6,9% officiellement, peut-être moins. On est loin, évidemment, des niveaux des années 90-2000, une tendance baissière qui inquiète les autorités, mais qui inquiète au fond le monde entier. C'est ce que d'ailleurs titrait La Croix ce matin. Le ralentissement chinois inquiète le monde. Le climat aussi. La Chine est le premier pollueur mondial en émissions de gaz à effet de serre et le pays est déjà très affecté par le dérèglement climatique. Les niveaux de pollution atmosphérique atteignent des niveaux sans précédent. Les pollutions des rivières chinoises est un véritable fléau. Beaucoup de sujets évidemment occupent et préoccupent Pékin. D'ailleurs, certains étaient évoqués dans les vœux récemment du président Xi Jinping.
Chers camarades, chers amis, nous allons dire au revoir à l'année 2015 pour accueillir le premier rayon de soleil de l'année 2016. C'est le moment de dire adieu au passé. En 2015, les Chinois ont beaucoup travaillé. Nous avons donc pu récolter les fruits de notre labeur. La croissance économique chinoise continue de se classer au premier rang mondial. La réforme s'étend à tous les domaines. Celle du système juridique s'approfondit. La formation spécifique du Parti communiste chinois visant les principes d'auto-perfection, de vigilance dans l'usage du pouvoir, de contrôle de soi, d'honnêteté dans la vie, le travail et la création a permis l'amélioration de l'environnement politique. Et enfin, la lutte contre la corruption nous engage sur une nouvelle voie. Avec les efforts communs de toutes les ethnies du peuple chinois, le 12e plan quinquennal s'achève en beauté et à la grande satisfaction des Chinois. L'année 2016 marque le début de la phase décisive de la réalisation complète d'une société de moyenne aisance.
Voilà donc extrait de ses vœux de Xi Jinping il y a quelques jours, la lutte contre la corruption, la question des droits de l'homme, la liberté de la presse, la question du terrorisme intérieur dont on va parler dans un instant, cette fameuse question ouïghour, cette minorité musulmane turcophone qui fait les frais de la politique répressive extrêmement violente de la part de Pékin et puis autant d'éléments finalement susceptibles de déstabiliser ou pas un régime qui pourrait se retrouver forcé d'opérer sa mutation de laquelle émergerait peut-être une nouvelle forme de régime politique. Avec nous pour discuter toutes ces questions, eh bien d'abord Dominique de Rambure, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, ancien banquier international, professeur à l'université Paris 1, sinologue qu'on a l'habitude d'entendre ici à ce même micro. Jean-Luc Domenac, bonjour. Merci d'être avec nous également, directeur de recherche au CERI. Puis vous êtes également enseignant à l'Institut d'études politiques de Paris, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Et puis avec nous pour nous accompagner durant toute cette émission, et donc c'est vrai, la présence a un petit peu provoqué notre envie de nous consacrer entièrement à la Chine, c'est Ursula Gauthier. Bonjour Ursula Gauthier.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous ce matin.
Merci
vous êtes
vous.
Journaliste, l'ancienne correspondante en Chine de l'Obs. Vous êtes arrivée en France le 1er janvier dernier, puisque vous avez été expulsée par les autorités après quasiment 10 ans de travail en Chine. La Chine a refusé de renouveler votre carte de presse à cause de votre travail, notamment travail d'enquête sur les Ouïghours, j'en parlais, on va en parler dans un instant. Pendant plusieurs semaines, vous avez fait l'objet d'une campagne de dénonciation de la part des autorités, des médias officiels qui vous accusaient d'encourager le terrorisme depuis notamment ce fameux article du 18 novembre dont on parlera. Beaucoup a été dit sur la Gauthier, sur la frilosité dont a fait montre la diplomatie française pour essayer tenter de convaincre en tout cas les autorités de Pékin de renoncer à cette expulsion. On a parlé de diplomatie du paillasson. Vous avez dit vous-même que peut-être que les efforts n'avaient pas été à la hauteur des enjeux et pas seulement pour votre propre personne, parce que finalement c'est aussi un très mauvais message qui est envoyé à la Chine, à qui on dit en gros vous pouvez agir librement, nous ne ferons rien. Qu'est-ce que l'État français aurait pu faire, Ursula Gauthier? Qu'est-ce qu'il aurait dû faire?
D'abord, tout de suite, d'emblée, arrêter le dénigrement. Parce que ça a commencé par des éditoriaux publics dans un quotidien du Parti communiste. Ben, tout de suite, s'il y avait eu un signal envoyé, ces éditoriaux se seraient arrêtés. Il y en a eu d'autres après, plein. Et puis, on ne serait pas passé au stade suivant où c'était vraiment le porte-parole du gouvernement qui, au point presse quotidien du ministère des Affaires étrangères, s'est mis à reprendre les termes des éditoriaux. Là, on aurait pu peut-être sauver mon poste.
Vous avez été convoqué par les autorités à un moment pour... On vous a demandé, j'imagine que c'est comme ça qu'on fait en Chine. On vous invite à prendre le thé, c'est l'expression qu'on utilise pour les personnes qui sont un petit peu récalcitrantes. Vous nous racontez justement cet entretien avec les officiels chinois qui vous disent à un moment, bon là vous en avez trop fait sur cet article, vous devez vous excuser, racontez-nous.
Il y en a eu 3 de ces entretiens et dès le premier, c'est-à-dire 2 jours après l'apparition de mon article sur le site de l'Obs, immédiatement, le jour même où il y a eu le premier éditorial dans le Global Times, le jour même, je suis convoquée au ministère des Affaires étrangères et ils me disent « Vous avez blessé les sentiments ». Exactement les termes de langage qui ont été remartelés pendant 1 mois et demi jusqu'à mon expulsion. « Vous avez blessé les sentiments du peuple chinois ». Je dis « Ah bon, c'est bien, le peuple chinois, il a lu mon article ». Peut-être, même vous ne l'avez pas lu. Ils n'avaient pas lu mon article. Ils ne l'ont toujours pas lu. Ils se sont fondés de A à Z sur ce que le Global Times, la version très déformée que le Global Times en a donnée. Ils n'ont toujours pas lu. C'est des gens du ministère des Affaires étrangères, des gens qui sont censés parler des langues étrangères. Ils n'avaient pas lu. Et ils me disaient « Mais vous avez dit telle chose ». J'ai dit « Montrez-moi dans mon article si j'ai dit telle chose. Est-ce que j'ai dit qu'il était compréhensible que des pauvres victimes chinoises soient massacrées par des sales terroristes ouïghours ?» Je ne l'ai dit nulle part. C'est le Global Times qui met ça dans ma bouche, entre guillemets. Je ne l'ai pas dit. Et ça a été ce dialogue de sourds de A à Z. Ils voulaient que je m'excuse publiquement pour les déformations faites par le Global Times de mon article.
Mais est-ce que c'est seulement cet article-là qui posait problème ou est-ce qu'il y avait d'autres choses ? L'agence officielle Chine Nouvelle a écrit à votre propos. Ursula Gauthier a toujours fait preuve de partialité politique sur la Chine. Toujours fait preuve. Et publie souvent des articles sans fondement.
Ça a été au bout d'un moment. Ça, c'est quand j'ai refusé de prendre à ma charge la déformation du Global Times et de m'excuser. Là... De plus en plus, ils ont monté le niveau de leur dénigrement contre moi. Et ça, c'est donc encore le porte-parole du gouvernement dans la 3e ou 4e intervention contre moi qu'il a fini par dire ça. Parce que les journalistes étrangers continuent à poser des questions. Mais pourquoi vous l'expulsez ? Cet article, nous avons écrit le même. Et là, il fallait bien qu'ils trouvent des raisons. Et là, ça a été toujours. Ce qui est totalement faux, puisque j'ai écrit toutes sortes d'articles, et en particulier des articles assez louangeurs de Xi Jinping même. Donc, c'est pas vrai.
C'est très difficile d'être un journaliste étranger en ce moment en Chine, et particulièrement peut-être depuis l'arrivée de Xi Jinping. Marie Holzmann signe un papier mercredi dans Libération, qui est sinologue et qui est par ailleurs présidente de Solidarité Chine, dans lequel elle expliquait qu'en réalité, cette affaire révèle une pression sourde et insidieuse extrêmement forte qui s'exerce en ce moment sur les correspondants étrangers, qui d'ailleurs connaissent très bien en fait les règles pour éviter d'être sanctionnés, c'est-à-dire il faut éviter les sujets sensibles juste avant le renouvellement de sa carte. Quand on est temporairement puni, il vous suffit d'attendre un petit peu, souvent d'ailleurs du côté de Hong Kong, de rester un petit peu discret, puis on finit par vous autoriser à nouveau à travailler. Elle parle d'un contrat tacite dont le public n'a aucune idée.
Oui, exactement. Non, mais bien sûr, les journalistes n'en parlent pas, parce que s'ils en parlaient... Ce petit deal souterrain entre les autorités et les journalistes serait mis en plein jour et on ne pourrait plus le faire. Donc oui, c'est vrai.
Au-delà de votre cas particulier, puis je vais passer la parole à nos autres invités, ce que on pourrait penser, c'est que finalement votre cas, il montre une détérioration plus profonde de la liberté de la presse, bien sûr, mais des droits de l'homme en général. Finalement, l'ère du président Xi Jinping s'est accompagnée, vous diriez-vous, d'un recul des libertés ?
Ah mais... flagrant et massif, et on ne peut que le remarquer. Ce n'est pas possible de dire que sous Xi Jinping, les choses sont restées au même niveau que sous Hu Jintao. Sous Hu Jintao, on se plaignait tout le temps. On disait, oh, quand est-ce que ça va changer? Alors, tout le monde a eu beaucoup d'espoir avec l'arrivée de Xi Jinping parce que il avait eu un père qui avait été parmi les grands réformateurs du régime. Son père était un grand réformateur. Et donc, tout le monde s'est dit, en bon fils, il va, n'est-ce pas, reprendre la suite de son père. Et en réalité, un grand bond en arrière de au moins 25 ans.
Bon, il y a eu des avancées quand même, l'abolition des camps de travaux forcés.
Oui.
Attendez, c'est pas des camps de travaux forcés, c'est des camps...
Jean-Luc Domenech.
C'est de la catégorie la moins contestable des camps de travail, hein, oui, c'est-à-dire les camps d'éducation pour le travail. Oui. Pardon. Hein.
Bien sûr, ils sont soi-disant abolis, et en réalité, les gens continuent d'être mis dans des lieux, dans des centres qui ne s'appellent plus comme ça. Mais la chose elle-même continue. C'est souvent très cosmétique en Chine. On vous dit, par exemple, on va abolir telle chose, l'enfant unique, par exemple, on va faire... Et puis, mais on vous met 36 conditions qui fait que les gens ne peuvent pas vraiment avoir un deuxième enfant. Enfin, voilà, c'est la Chine.
Jean-Luc Domenech, Dominique de Rambure, réaction sur, j'allais dire, cette affaire Ursula Gauthier et ce qu'elle révèle de ce recul des libertés en Chine. Dominique de Rambure.
Bah écoutez, je trouve que c'est, excusez-moi, exemplaire. C'est-à-dire que plus le Xi Jinping et le régime en général cherchent à imposer ce qu'ils appellent le marché, encore faudrait-il savoir ce qu'ils appellent par marché, plus en quelque sorte ils sont obligés de serrer les boulons pour ne pas lâcher le contrôle de la situation. Donc on se trouve effectivement dans une transition extrêmement délicate, vous le confirmerez, c'est-à-dire d'un côté il faut abandonner cette toute-puissance de l'État et du parti, bien entendu, pour essayer de déboucher sur une société économiquement, je ne parle même pas du point de vue politique ou moral, d'une société qui soit plus libre, plus ouverte, basée sur la consommation, et au fur et à mesure qu'on se rapproche de cet objectif, les dirigeants, Xi Jinping le premier, reculent, diffèrent, prennent des mesurettes, etc. Et on parlera certainement du fonctionnement des marchés. Les marchés ne fonctionnent pas. Pourquoi ? Parce que l'État intervient tout le temps.
Jean-Luc Domenac.
Oui, d'abord, je voudrais insister sur quelque chose de précis, c'est que Ursula Gauthier est excellente. C'est pas n'importe qui. Pour moi, j'ai toujours considéré, je la connais depuis 30 ans, j'ai toujours considéré qu'elle était parmi les meilleurs connaisseurs de la Chine depuis, je vous connais depuis la fin des années 80, hein, et déjà vous étiez excellente. Et vous avez, parce que c'est pas par hasard qu'elle est excellente, elle sait le chinois. Et bon, déjà, ça fait déjà du tri, hein. Donc, si les Chinois s'attaquent à elle, c'est pas pour rien. Alors, le deuxième point, c'est pourquoi les Chinois s'attaquent à une Française. Moi, je crois que c'est que nous sommes encore, si je peux dire, une grande puissance intellectuelle, ou une puissance intellectuelle, la preuve. Ursula Gauthier est excellente, de haut niveau, mais en même temps, on peut toujours espérer que la France fléchira, parce qu'elle a laissé cette attente, disons, à plusieurs reprises, disons, elle a laissé espérer ça aux Chinois. L'ambassade française, dans son comportement de toutes les semaines, etc., a pas toujours été d'une vigueur, on va dire, énorme, etc., etc. Donc c'est toujours intéressant de tâter le terrain du côté des Français. Et si ça marche du côté des Français, ben on s'attaquera aux journalistes britanniques, etc. L'objectif final étant quand même les journalistes américains. Parce que, par exemple, pour vous dire le travail qu'ils font, on vient d'apprendre que peut-être Chouenlai était un homosexuel. Hein. Vous imaginez un peu là. Oui. Il y a toujours eu. Enfin bon, bref.
Et par ailleurs, les journalistes américains ont déjà été attaqués sur ce point-là, parce que je crois que c'est Joe Biden qui avait mis la pression justement et qui avait obtenu gain de cause, parce que finalement les journalistes n'avaient pas été expulsés.
Mais les journalistes américains avaient sorti des choses extraordinaires, la fortune personnelle des familles des dirigeants. Voilà. Alors c'est un sujet nettement plus douloureux, je dirais, donc pour la nomenclatura qu'une analyse de ce qui se passe au Xinjiang, et ils n'ont pas été expulsés.
Marc Sémon.
Justement, je voudrais revenir sur ça. Parce que c'est la première fois, finalement, qu'il y ait des accusations publiques, aussi fortes, aussi évidentes, avec une demande d'autocritique publique, comme dans les grandes années de la Révolution culturelle, contre une journaliste. Jusqu'ici, effectivement, ça s'était fait. Il y avait eu on retirait la carte de presse, on faisait pression, ça restait discret et tout. Donc voilà, comme vous le disiez vous-même, cette fois-ci, ça a été très différent dans la méthode. Alors, est-ce que c'est simplement parce que la France représente une occasion de faire un test pour un tournant plus général, après, ou bien est-ce que c'est malgré tout, même si, effectivement, la question peut sembler moins importante que la fortune personnelle et la corruption des dirigeants, le fait que vous ayez touché cette question des Ouïghours, qui explique une si forte réaction, et avec cette demande d'excuses publiques, etc.
Ursula Gauthier.
Oui, je pense surtout la deuxième hypothèse. Parce que la question Ouïghour, aujourd'hui, d'abord, ça se multiplie. Il y a tout le temps des heurts entre les Ouïghours et les Han, et entre les Ouïghours et les autorités, la police, les polices locales, etc. Donc, cette question commence à les travailler sérieusement. D'autre part, il y a des jeunes Ouïghours maintenant qui vont rejoindre pas tellement l'État islamique que Al-Nosra. Il y a des Ouïghours qui essayent de faire... Ils ont fait un attentat à Bangkok dont la Chine n'a absolument pas parlé. Et ils font des attentats qui commencent à faire sentir leur existence. Ils ne peuvent pas entrer encore dans le territoire chinois. C'est hors de question. Tout ce qui se passe à l'intérieur de la Chine, ce ne sont pas les Ouïghours islamisés, les Ouïghours djihadisés qui le font. Ce sont les Ouïghours de l'intérieur de la Chine qui le font. Il n'y a pas de lien entre les deux. Hein. Mais la question commence à les préoccuper sérieusement. Et ils ne sont pas armés. Tout ce qu'ils connaissent, c'est la répression. C'est la politique de l'autruche. On va couvrir l'information, on va la mettre sous le tapis. Et comme ça, les choses n'auront pas lieu. C'est très idiot, mais c'est un peu la politique chinoise.
Alors justement, les Ouïghours, Ursula Gauthier, peut-être pour les auditeurs, pour rappeler, donc ils font l'objet, effectivement, vous le dites, de cette assimilation forcée. On organise finalement une hanisation de la région, c'est-à-dire qu'on aide à l'installation des Han, qui est l'ethnie majoritaire en Chine, et puis on fait tout pour effacer la culture des Ouïghours. Les femmes n'ont pas le droit de porter le voile, les hommes barbus ne peuvent pas monter dans les bus, l'accès à la religion, à l'éducation, au marché du travail est de plus en plus difficile. Écoutez, pour s'en rendre compte peut-être pour les auditeurs, extrait d'un très bon documentaire là aussi qui avait été fait par Éric Dabré, leçon de propagande chinoise en zone interdite. Petit extrait.
Cette plaque, ça veut dire bonne famille.
Et là, c'est qu'ils sont civilisés. Ils ont accepté d'être éduqués. Celle-là, ça veut dire que c'est une famille propre.
Qui donne ça ?
C'est le gouvernement.
Je ne me rendais pas compte de la colonisation des Chinois. J'ai grandi au milieu d'eux. Et je croyais que le parti nous avait libérés et n'était là que pour nous aider. Mais c'était un lavage de cerveau. On était juste bon qu'à obéir. Ce n'est qu'après les émeutes de juillet 2009 que j'ai compris que nous n'étions pas des Chinois à part entière. À l'époque, j'étais institutrice. Le proviseur de l'école a réuni tous les professeurs ouïghours. Et il nous a dit: vous, les Ouïghours, vous n'êtes que des moustiques. N'oubliez jamais que d'une seule main, nous pouvons vous briser.
Voilà, extrait donc de ce documentaire « Leçon de propagande chinoise en zone interdite » d'Éric Dabré. Et la situation pour ces Ouïghours, Ursula Gauthier, elle s'empire. On a des nouvelles mesures, par exemple les prénoms musulmans ont été interdits, les restaurants Ouïghours sont obligés de proposer de l'alcool, les fonctionnaires sont obligés de manger publiquement pendant le ramadan, donc on voit que les choses sont de plus en plus difficiles. Vous expliquiez justement, et je rejoins finalement la question tout à l'heure de Marc, dans votre article du 18 novembre, que suite aux attentats du 13 novembre à Paris, on a vu se déployer une nouvelle stratégie à Pékin. C'est-à-dire qu'il y a eu un vrai mouvement de solidarité à l'égard de Paris, notamment avec une quantité de témoignages via l'ambassade de France, mais où les Chinois demandaient en gros en retour que l'on fasse preuve d'autant de compassion vis-à-vis du terrorisme interne chinois.
Subi par la Chine. Donc, en Chine, jamais on ne vous dit que les terroristes sont des Ouïghours et que les victimes sont des Han, sont des Chinois. Jamais. Parce que la grande peur de la Chine, c'est de mettre le doigt sur un problème, un vrai problème, qui est celui de l'assimilation forcée des Ouïghours. Donc, tous ces événements qui se passent, qui sont souvent des événements sanglants, hein, les Ouïghours... C'est pas des Tibétains. Ils ne s'immolent pas eux-mêmes.
Ah non.
Hein? Bon, quand ils sont en colère, ils prennent leur couteau de cuisine, ouais, et ils vont massacrer tous les flics du poste de police, qui sont d'ailleurs la plupart des Ouïghours.
Comme ça avait été le cas à Baicheng.
Alors, à Baicheng, c'est encore pire, puisque...
Vous nous racontez ?
Voilà, à Baicheng... Alors, ce qu'on sait de Baicheng, c'est bien sûr pas les Chinois qui nous l'ont dit. Hein. Ça a été sorti par Radio Free Asia, qui est une radio américaine, et où il y a un journaliste extraordinaire, qui est un journaliste d'origine ouïghour, qui a gardé des relais au Xinjiang, et qui peut avoir des informations. On sait plein de choses sur ce qui se passe au Xinjiang à cause de lui, à cause de ce journaliste de Radio Free Asia. Et il a sorti l'événement, qui est un événement terrifiant, sanglant, où il y a trois notables dans un petit bled, trois notables qui étaient même assez considérés comme des riches, et qui, on ne sait pas encore la raison pour laquelle ils se sont mis dans cet état. On n'arrive pas à le savoir. Ils ont été fous de rage et ils ont été attaqués une mine, donc ils ont massacré le patron de la mine, sa famille, et tous les mineurs, dont la plupart étaient des Han, évidemment, puisqu'évidemment, on n'emploie pas les locaux. On fait venir des Han du continent chinois. Et ils massacrent tout ce monde. Il y a la police qui arrive. Ils massacrent les policiers ouïghours, pour la plupart. Et puis, ils prennent le maquis avec femmes, enfants, filles, gendres, petits-enfants, petits-fils qui ont un an et 6 ans, etc. Et ils prennent le maquis dans la montagne ouïghour, enfin, dans la montagne du Xinjiang. Et l'État met 2 mois. Aller trouver.
évidemment, la Chine ne parle pas de cet événement, parce que c'est un événement qui montre à quel point les gens sont fous de rage, qui montre à quel point ils peuvent faire du mal, hein, et qui montre à quel point l'État est un peu désarmé, parce qu'ils n'arrivent pas à récupérer les gens tout de suite.
Mais est-ce que c'est quelque chose qui ne montre pas aussi, je vais me faire le défenseur des autorités,
allez-y,
que
allez-y.
D'une certaine manière, il existe aussi un réseau terroriste islamiste au Xinjiang?
Mais non, pas cet événement-là. C'était tout le sens de mon article. Je disais, dans cet événement-là, nous n'avons pas un seul djihadiste. Ce sont trois pères de famille qui étaient très bien vus dans...
Oui, mais on a par exemple le mouvement islamique du Turkestan oriental, l'ETIM, qui est une organisation, pour le coup, séparatiste, islamiste, armée. C'est quoi le poids de cette organisation? Est-ce qu'on a affaire là à quelque chose de comparable à d'autres mouvements armés islamistes qu'on voit par exemple au Moyen-Orient? Ou est-ce que tout ça est un peu de l'ordre du fantasme?
Alors, l'ETIM n'existe plus, de toute façon. Hein. L'ETIM, c'était un groupuscule qui avait beaucoup fait de pub pour lui-même et en dehors de Chine, attention, rien de tout ça n'est à l'intérieur des frontières chinoises. Et l'ETIM avait été mis sur la liste des organisations terroristes par Bush à l'époque quand il voulait faire l'union sacrée contre le terrorisme après l'attentat de New York. Mais l'ETIM, après, les Américains ont été obligés de le retirer de la liste des organisations terroristes parce qu'il n'existait pas. Mais il existe une organisation aujourd'hui qui est effectivement en lien avec d'autres organisations genre Al-Nusra, etc. Mais ces gens-là n'ont pas les moyens d'agir à l'intérieur des frontières chinoises. Il y a un contrôle tellement énorme, tellement écrasant que pas un seul terroriste, je ne dis pas même un terroriste, pas une Kalachnikov ne peut traverser la frontière. Tous les attentats que l'on voit sont faits au couteau de cuisine.
Oui, parce que c'est évidemment une région extrêmement surveillée. C'est la zone la plus militarisée du territoire, en réalité.
Voilà.
Jean-Luc Domenac, Dominique de Rambure, Marc Sémaux. Jean-Luc Domenac.
Oui, moi je suis d'accord avec cette analyse. Ce qu'il faut bien voir, c'est deux choses. D'une part, la pression des Chinois est telle que la population ouïghour est placée devant un choix, disons, terrible. Ils détestent les Chinois et ils les détestent de plus en plus. Mais d'un autre côté, la monopolisation de l'économie, la monopolisation des voies de la réussite par la Chine fait des choix politiques, des choix dramatiques, disons. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, vraisemblablement, si ça continue, la Chine finira par gagner dans 50 ou 60 ans, mais ça va être au prix, disons, d'horreur et de malheur, et aussi de beaucoup d'émigration. Il y a beaucoup de gens du Xinjiang qui sont à Pékin et dans d'autres villes, et d'ici là, il y aura beaucoup, beaucoup de morts, beaucoup, beaucoup d'autres incidents. C'est affreux, quoi. C'est épouvantable.
Sachant que c'est pas seulement une question finalement religieuse, ethnique, identitaire, c'est aussi derrière, vous l'avez un petit peu dit, on le comprend, c'est aussi une question économique, c'est-à-dire que c'est aussi un endroit où il y a des ressources énormes, et notamment en hydrocarbures, et donc évidemment pour Pékin, le contrôle de cette région est primordial pour des raisons économiques qu'on va aborder dans un instant.
Et il faut reconnaître une chose, excusez-moi, pour être totalement objectif, que la population ouïghour, et ça se comprend bien, hésite à se saisir des moyens de résister, y compris linguistiques, c'est-à-dire ils se refusent à apprendre le chinois, et je le regrette pour eux. Il faudrait qu'ils puissent être à la fois révoltés et de bons citoyens. Mais c'est... On ne peut pas se mettre à la...
Ursula Gauthier, Dodlin, le directeur n'a pas l'image, mais...
Mais c'est parce que j'ai aussi... C'est une question, une discussion que j'ai eue avec des Tibétains, plein de Tibétains. Et les Tibétains se plaignent de la même chose que les Ouïghours. Ils nous imposent le chinois, mais... Ces gens, ils ont leur langue. Ils se sentent dépossédés. Si dans les écoles primaires, on ne peut pas apprendre sa langue... Dans les écoles primaires, et pendant toute la scolarité, on a juste un cours dans sa propre langue par semaine. On se sent dépossédé, forcément. Donc, c'est bien d'apprendre le chinois. Moi, je leur ai toujours dit, moi, je suis multilingue. Je trouve que c'est vachement bien. Et ils me disent, mais non, mais ils nous prennent tout, ils nous prennent même notre langue.
Maximum. Bon,
justement, sur un point là-dessus, ce qui est extrêmement révélateur et inquiétant, c'est qu'un universitaire comme Ilham Tohti, qui a toujours été un non-violent, qui parle parfaitement chinois et qui était un possible passeur entre ces deux mondes, d'une certaine façon, pour que les Ouïghours puissent trouver une espèce d'autonomie au sein d'une grande Chine, malgré les promesses de l'époque de Sun Yat-sen et du début du siècle dernier d'une indépendance du Turkestan chinois. Donc, Ilham Tohti, qui est totalement non violent et actuellement détenu au secret et condamné à
vie, à perpétuité. à perpétuité. Donc, Ilham Tohti, que je connais, puisque j'ai fait plusieurs fois son interview, c'est un homme qui n'était absolument pas une fois, il ne faisait allusion à la notion d'indépendance. Il ne voulait pas, il n'a pas parlé d'indépendance, il voulait juste que l'autonomie étiquetée, parce que ça s'appelle la région autonome, n'est-ce pas, du Xinjiang. Donc, qu'il y ait une véritable autonomie. Ils ne peuvent rien décider. Ils sont l'objet d'un déferlement de colonisation, d'occupation, enfin, de colonisation, d'installation de millions et de millions de personnes et d'exploitation, donc, des ressources naturelles qui ne donnent que des toutes petites retombées à la population locale. Comment peut-on être content de cela ?
Dominique de Rambure, avant de passer à un autre sujet.
Oui, pardon.
Mais je vous en prie.
Ce qui est très intéressant dans ce que vous dites, c'est que les entreprises chinoises justifient le fait qu'ils ne recrutent pas de locaux parce qu'ils ne parlent pas chinois, ce qui est un paradoxe absolument incroyable puisqu'on les empêche de connaître à la fois leur langue et le chinois. Alors moi, il y a deux choses qui me frappent dans cette opération. Le premier, c'est un incroyable échec de la politique d'assimilation et d'intégration de la Chine. Je vous rappelle que, constitutionnellement, vous savez mieux que moi, la Chine est un pays multiethnique, théoriquement. C'est inscrit dans la Constitution. Et d'ailleurs, le drapeau chinois, c'est une grande étoile jaune qui représente le peuple Han, entouré de quatre, je crois, étoiles plus petites qui représentent les Mongols, les Mandchous, les Ouïghours, les Tibétains, etc. Bon, donc c'est un grand échec. Et même, c'est un recul par rapport à l'époque de l'Empire. Je vous rappelle que dans la grande allée qui conduit au tombeau des empereurs Ming, il y a une grande... Il y a un pilier carré où sont traduits dans les différentes langues les décrets de l'empereur, en ouïghour, en tibétain, etc. Alors la deuxième chose qui me frappe, et ça c'est d'une certaine façon plus inquiétante, ça contribue à détériorer les relations avec les pays voisins. La Chine se présente comme un leader régional, c'est leur objectif. Ils n'ont pas l'intention de provoquer les États-Unis, au moins pas maintenant. Ce qu'ils veulent, c'est au contraire régner sur les pays voisins. Or, tous ces problèmes, notamment de minorité, ne font que aggraver les choses. Je vous rappelle que les relations avec la Turquie sont exécrables. Pourquoi ? Parce que la Turquie, très naturellement, a pris position pour les Turcs maintenant, qui parlent la même langue qu'eux. Donc voilà deux aspects qui me paraissent et qui me paraissent inquiétants. Et surtout, je ne vois pas comment le régime tel qu'il fonctionne, vous nous l'avez expliqué, pourrait affronter ce problème, peut-être en négociant, en attribuant de nouvelles libertés, etc. On assiste qu'à une aggravation régulière de la politique répressive.
Autre problème, Dominique de Rambure, et là, c'est vers vous une fois encore que je vais me tourner, puisque vous connaissez bien ce problème de l'économie et de la finance chinoise. Cette semaine encore, la bourse chinoise a connu de nouveaux déboires, après évidemment ceux de l'été dernier, où on s'en souvient, il y avait une terrible dégringolade, 30% quasiment, des nombreux petits porteurs, des particuliers avaient perdu leur chemise. Là, à nouveau, on a ce problème-là, on a eu ce mécanisme disjoncteur qui a été mis en place cet été, qui s'est déclenché mercredi. Finalement, on a suspendu le mécanisme disjoncteur parce qu'on s'était dit que c'était pas une bonne idée. On a tout ça qui intervient sur fond de ralentissement chinois un peu général. En quoi est-ce que tout cela inquiète Pékin et doit inquiéter le monde ? Quels sont les risques, y compris politiques et sociaux, qui pourraient découler de tout ça ?
Alors, il faut se rappeler qu'en Chine, je parle sous votre contrôle, la priorité, c'est la stabilité. Et même dans le peuple, je pense, parce que quand on parle avec les Chinois, on se rend compte qu'ils apprécient beaucoup, finalement, cette stabilité que leur apporte le régime communiste, c'est-à-dire le parti unique, etc., par rapport à toutes les drames qu'ils ont connus tout autour du siècle. Donc, c'est la priorité. Ce qui empêche les marchés de fonctionner. Vous avez indiqué avec juste raison les soubresauts des marchés financiers. Ce n'est qu'un exemple parmi beaucoup d'autres de l'intervention traditionnelle de l'État et du parti. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés financiers ? C'est relativement simple. Il y a deux causes aux fluctuations. Ce sont des marchés très volatiles, c'est-à-dire qu'il y a des grandes fluctuations d'un mois sur l'autre et d'une année sur l'autre. La première raison, elle est, disons, un peu plus démographique ou sociologique. C'est que les Chinois, paraît-il, ont un état d'esprit très spéculatif, très court-termiste, comme on dit en économie, c'est-à-dire qu'ils investissent. Il faut dire qu'ils n'avaient pas tellement le choix, puisque jusqu'à une date récente, ils avaient en tout et pour tout les comptes bancaires, les comptes d'épargne, qui leur rapportaient 3%, 3,3 exactement, et puis les bons du Trésor, c'est du même ordre. Alors, les autorités ont autorisé les banques à vendre des produits plus élaborés, produits qui rapportent plus, mais qui sont extrêmement dangereux. Et ça, les épargnants ne le savent pas. Ils ne s'en aperçoivent que lorsque une faillite se déclenche. Alors,
Il y a un risque de crise boursière grave, gravissime, et qui pourrait se répandre en cascade à l'ensemble du monde.
Je pense pas. Il y a des risques graves dans un certain nombre de secteurs, oui. L'immobilier, etc. Je pense que la bourse est un phénomène. Alors d'abord, il faut se rappeler que vous avez seulement 10% des investissements chinois qui sont financés par la bourse. C'est très peu de choses. Oui. Le reste, c'est le système bancaire. Donc tant que le système bancaire est sous contrôle, en principe, il ne peut pas se passer grand chose. La volatilité du marché, je dirais qu'elle est, en quelque sorte, excusez-moi du terme, normale. Mais c'est une chose que les autorités ne peuvent pas comprendre, c'est qu'il y a une situation qui leur échappe, et comme vous le faites très bien remarquer, ils utilisent une méthode, alors ils utilisent un marteau-pilon pour écraser une mouche, hein, et puis ça marche pas, alors on annule tout, on recommence. Je vous rappelle qu'en août, lorsqu'il y a eu la grande crise boursière, 95% des sociétés cotées à la bourse avaient été retirées de la bourse sous des prétextes divers. Ce qui veut dire que la bourse était totalement artificielle.
Jean-Luc Domenac, pardon, la stabilité de ce régime, elle repose sur, disons, un pacte un peu tacite, où en gros les autorités s'engagent à développer le pays, à enrichir les citoyens, et puis en retour, les citoyens n'exigent pas d'évolution du régime politique. Voilà. Est-ce que vous pensez que ce pacte-là pourrait se briser sous l'effet du ralentissement économique ?
Ah oui. Ah oui. Ça c'est clair. Je dirais qu'il y a deux grands problèmes. Le premier problème, c'est l'élévation régulière et rapide du niveau de vie. Et le deuxième problème, c'est que une fois que le premier problème ne serait pas résolu, le deuxième deviendrait grave, c'est la corruption. Tant que tout le monde monte un petit peu en gamme, si je puis dire, sur le plan économique, après tout, que qu'à tous les niveaux, les cadres s'en mettent plein la poche, on n'est pas très content, mais voilà, ça passe. Si jamais, de façon stable, la croissance descendait en dessous de 3%, disons actuellement, ils sont probablement à 4, c'est ça, ils sont à la limite. Et si elle descend encore, alors à ce moment-là, la question de la corruption et la question de la pesée du pouvoir deviendra dramatique. Et on verra à ce moment-là que ce pays n'est certes pas démocratique, mais qu'il est éclaté. Il est éclaté par dans sa réalité économique, il y a d'énormes forces économiques qui sont concurrentes, et il est éclaté potentiellement sur le plan territorial. N'oubliez pas que parmi les provinces chinoises, il y en a 3, 4 ou 5 suivant les calculs qui auraient la puissance de l'un des 15 premiers pays du monde. C'est-à-dire que le Guangdong, le Jiangsu, le Zhejiang, le Shandong pourraient très bien aurait les moyens de se payer une armée. Voilà.
La question de la lutte anticorruption, bah justement, ça va être un gros morceau là. On va en parler tout de suite. Petit extrait. Ouverture du procès de l'ancienne étoile montante du parti Bo Xilai, ancien chef du PCC du Chongqing, accusé de corruption. Un procès extrêmement médiatisé par les autorités. Je propose d'écouter là la présentation par le procureur des charges qui pesaient contre Bo Xilai devant un parterre de journalistes. Écoutez.
Entre 2000 et 2012, Bo Xilai est accusé d'avoir reçu près de 4 millions de dollars en dessous de table par son propre biais, celui de son épouse Gu Kailai ou de leur fils Bo Guagua. Cet argent aurait été versé par Tang Xiaoling, PDG de la Dalian International Development, et par Chu Ming, président du groupe Dalia Shine. Le montant de cette corruption est énorme. Bo est également accusé d'avoir détourné 816 000 dollars lorsqu'il gouvernait la province du Liaoning. Le montant de ce détournement est également très important.
Voilà donc ces charges présentées par le procureur. Quand l'équipe actuelle est arrivée au pouvoir, le président à savoir Xi Jinping et puis le Premier ministre Li Qiang, c'était en mars 2013, l'une des priorités, peut-être même la première priorité qui a été présentée par la nouvelle équipe, c'est la lutte contre la corruption, avec cette fameuse formule, la chasse aux tigres et aux mouches, c'est-à-dire les petits fonctionnaires et puis les cadres du parti. On sait évidemment que la corruption, c'est aussi l'huile dans les rouages de ce parti communiste chinois, que tout ça est intrinsèquement lié, nécessaire pour son bon fonctionnement. Deux questions. Quel bilan est-ce qu'on peut tirer de cette campagne anticorruption ? Puis la deuxième, peut-être plus importante, c'est est-ce que cette lutte anticorruption ne risque pas de déstabiliser le parti au point, peut-être, de le faire péricliter ? Qui veut y aller ?
Je veux bien aller sur la deuxième question.
Ursula Gauthier.
Ben, écoutez, c'est déjà le cas, puisqu'il y a des bruits qui courent à Pékin que Xi Jinping et son monsieur propre, et celui qui mène la campagne anticorruption d'une main de fer, que tous les deux sont soumis à des tentatives d'assassinat tous les jours. Hein. Donc on cherche à avoir leur peau, parce qu'il y a contre eux des intérêts qui sont monstrueux. C'est pas à 450 000 dollars, c'est par milliards de dollars que ça se compte. Hein. Les fortunes, l'article de Bloomberg qui parlait de la fortune des dirigeants, la famille de l'ex-premier ministre, c'était plus de 2 milliards de dollars, je crois. Hein. Donc, ce qu'ils ont sorti à propos de Bocilai, c'est vraiment le petit haut de l'iceberg. Et la famille Bocilai avait évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent. Mais ils ne peuvent pas le dire publiquement parce que ça reviendrait à dire, regardez, un baron du parti, regardez l'argent qu'il a pu amasser. Donc, ils ont toujours le cul entre deux chaises. Ils veulent accuser, mais ils ne peuvent pas donner la vraie taille du forfait. Et donc, là, c'est pareil. Pour la lutte contre la corruption, Xi Jinping fait croire qu'il est en train d'aller contre quelques pourris, voilà, et c'est tout. En réalité, il est contre l'ensemble de la nomenclatura. Tout le monde, mais tout le monde, sans exception, a croqué. Tout le monde. Donc, d'une certaine façon, s'il veut vraiment nettoyer le parti...
Lui-même, d'ailleurs, aussi.
Mais il veut le...
Lui-même, probablement.
Mais ouais. L'effort est réel contre la corruption.
Ah, c'est certain. L'effort c'est certain. Réel. Sauf que, et c'est très sélectif, on voit bien qu'il va contre la corruption des tendances, des factions au sein du parti qui sont contre lui et contre les réformes qu'il veut mener. Ce n'est pas juste factionnel. Il veut faire des réformes. Les gens qui s'opposent à ces réformes, il les fait tomber à cause de la corruption.
Bon, tout le monde va intervenir sur cette lutte anticorruption. Tout le monde va pouvoir le faire. Dominique de Rambure, d'abord. Allez.
Bon, je voudrais faire juste quelques observations. La première, ce qui me surprend, c'est une certaine tolérance, complaisance de l'opinion publique vis-à-vis de la corruption. Ça m'a beaucoup surpris. Quand on évoque la chose, on dirait que ce qui les choque le plus, à la limite, que les dirigeants s'en mettent plein les poches, comme vous dites, bon, ben, c'est normal, ils sont dirigeants, etc. C'est une vieille tradition, hein, ça remonte à l'époque de l'Empire. Ils sont finalement beaucoup plus sensibles, et je les comprends, à cette corruption quotidienne, permanente, où il vous faut payer ou donner un bakchiche pour le moindre papier, etc. Bon, ça, c'est la première chose. Maintenant, soyons un peu cyniques, soyons un peu... Voilà, tenons-nous-en aux problèmes économiques. Alors, je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure. On évolue le coût de la corruption, quelque chose comme 3 ou 4% du PIB. C'est peu et c'est beaucoup. Soyons modestes, je vous rappelle que la France n'est pas très bien placée non plus en matière, même si ce n'est pas dans les mêmes proportions, par rapport aux autres pays développés, en matière de corruption. Bien, passons. La corruption est souvent comprise, comme vous l'avez dit, comme une façon de faciliter les choses, que vous appelez l'huile pour faire tourner les... Quand vous avez une entreprise étrangère qui s'installe en Chine, bon, d'abord, on l'oblige à prendre un partenaire chinois, même si c'est la société étrangère qui va gérer, apporter les investissements, hein, le savoir-faire, etc. Et puis, il faut arroser un certain nombre de gens pour obtenir des choses aussi simples que le raccordement au réseau téléphonique, aux égouts, je sais pas quoi, etc. Bon, puis il faudra continuer à alimenter. Bon. Alors, il s'agit d'une qui, économiquement, n'est pas dramatique. C'est de l'argent qui va être recyclé, qui va retomber, sauf qu'il y a deux problèmes. Le premier, c'est que cet argent part, il quitte la Chine. Ce sont les banques de Hong Kong qui récupèrent l'argent mal gagné, si vous voulez. Et il y a d'ailleurs une statistique assez curieuse, c'est que les chiffres de sortie des capitaux de Chine en direction de Hong Kong, fournis par les douanes chinoises, ne correspondent pas aux chiffres d'entrée dans le territoire de Hong Kong par les douanes de Hong Kong. Donc c'est à peu près de 1 à 2, c'est à peu près le double. Bon. Donc c'est vous dire l'ampleur de la corruption. Alors c'est un deuxième problème, et je m'arrêterai là-dessus, c'est qu'évidemment ce sont des gens qui sont déjà très riches qui touchent. Et cet argent n'est pas utilisé à être réinvesti dans la consommation, le développement, l'investissement, mais part à l'étranger ou est investi dans l'immobilier. Et voilà.
Jean-Luc Domenac.
Oui, je crois qu'il y a quand même un élément qui joue en faveur du système, si je puis dire, c'est que quand même, pour la première fois depuis longtemps, il y a des dirigeants qui connaissent leur métier, qui connaissent à peu près leur métier. Jusqu'à présent, on avait des gens qui étaient des spécialistes de l'organisation. C'était des gens qui étaient des spécialistes de la manœuvre. C'était des gens qui étaient et qui s'appuyaient essentiellement sur le parti. Maintenant, on est, ce sont des fils de prince, disons, en face de gens qui connaissent le monde, qui s'y sont tissés des amitiés et qui connaissent l'économie pour ce qu'ils en profitent, ils en sont des partenaires, et donc ceux-là et qui sont des gens de grande qualité intellectuelle, il faut être capable de le reconnaître. On a vraiment des gens qui connaissent les États-Unis, qui connaissent les grands manias de l'économie internationale. Donc ça c'est l'élément, disons, positif. Est-ce que ça suffirait à tenir la Chine debout à moins de 3%, 2%? Alors là, moi je terminerai en disant simplement une chose. On oublie que l'histoire de Chine a toujours été divisée en deux temps. Un temps plus et un temps moins. Ils sont, quand ils sont en forme, ils sont remarquables. Mais quand ils sont mauvais, alors là, ils sont incroyablement mauvais. Et donc c'est ça, il faut bien se souvenir de cela. C'est-à-dire que la Chine, quand elle a fini d'être bonne, souvent elle devient très mauvaise.
Ouais. Marc Sémon.
Alors justement, on en parlait au début, mais est-ce qu'il n'y a pas une déception par rapport à Xi Jinping? Parce que les réformes sont enlisées. En matière de liberté, du propre aveu de toutes les organisations de défense des droits de l'homme, c'est le pire bilan depuis deux décennies. Bon, aujourd'hui, on voit que l'économie est en train sérieusement de patiner. Donc est-ce qu'il n'y a pas un espèce de durcissement parce que, justement, des tempêtes s'annoncent, hein, cette Chine du pire dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que Xi Jinping peut récupérer les choses ou finalement ça aura été une grande, grande déception et rien d'autre?
Ursula Gauthier.
Alors, moi, je pense que Xi Jinping, il a pas encore tout montré. Je pense qu'il a encore des capacités. Je pense que la messe n'est pas dite dans son cas. C'est vraiment l'homme politique chinois qui a montré le plus d'intelligence politique et de capacité à faire les choses. Oui, depuis très longtemps. Bon. Ceci dit, c'est pas lui le problème. Il faut comprendre que la Chine est dirigée par une nomenclatura. C'est eux qui. Il y a toute une bande de vieux retraités du parti qui sont ce qu'on appelle les anciens et qui sont là à donner leur avis sur tout. Et bon, alors Xi Jinping est le premier à ne pas trop les écouter, mais il est quand même obligé d'en tenir compte. Il peut pas se mettre quand même la totalité du parti à dos. Il ne peut pas. Hein. Donc il est obligé de faire, de trancher en faveur de l'un, en faveur de l'autre, et de laisser passer l'un.
Est-ce que ça pourrait le pousser à faire des réformes politiques, du coup? Parce qu'il y a les réformes économiques.
Etc. Ah, certainement pas. La grande hantise de Xi Jinping, c'est d'être le Gorbatchev chinois. Il l'a dit tout de suite. Il l'a dit quand il est venu au pouvoir.
Et dans des termes, d'ailleurs.
Il a dit, voilà.
Il a dit en
Russie.
Qu'il lui manquait des attributs masculins importants.
Donc, Xi Jinping, c'est tout sauf être Gorbatchev. Mmh. Donc, maintenir le parti, il se sent l'héritier de cette... son père est un des fondateurs du parti, donc il veut absolument, et par-dessus tout, sauver le parti. Son intelligence, c'est qu'il a compris que pour sauver le parti, il fallait changer la règle du jeu, et qu'il fallait le changer même radicalement. Sauf que les moyens qu'il prend pour essayer de faire son changement ne font qu'aggraver les problèmes. Mais je voudrais dire une chose là-dessus, c'est qu'il a au sein du parti les anciens durs, ceux qui étaient pour, qui étaient les ultra-communistes, qui étaient contre les réformes de marché du temps de Deng Xiaoping, aujourd'hui sont devenus les ultranationalistes. Et les ultranationalistes manipulent tout, et dans mon cas, je suis persuadée que ce sont les ultranationalistes, le Global Times est un de leurs organes d'expression, les ultranationalistes qui s'emparent du discours ferme de Xi Jinping, qui le poussent à l'extrême et qui font des actions qui obligent Xi Jinping à rester fidèle à son discours.
Exemple.
Et donc à sévir.
Exemple.
Mais c'était dans mon cas. Quand le Global Times fait tout de suite un éditorial et puis un deuxième absolument incendiaire contre moi,
Le ministère des Affaires étrangères ne peut que se ranger à cet avis.
Il pèse rien.
Il ne pèse rien. Et donc, le ministère des Affaires étrangères aurait pu, si les choses avaient été graduelles, dire, écoutez, non, ça peut faire trop de bruit, c'est pas bon, etc. Mais là, c'était préempté, c'était fini d'emblée. Et les ultranationalistes, c'est pareil sur les mers de Chine, sur l'affaire des Senkaku Diaoyu, sur tous les trucs qui sont avec le Japon, etc., sur Taïwan... c'est vraiment des hurleurs. Ils sont là à hurler constamment du matin jusqu'au soir.
C'est-à-dire que la perte de légitimité en interne, elle se récupère avec des affaires extérieures, tout simplement.
Et donc, Xi Jinping, il n'est pas fou. Il ne va pas faire des choses qui vont lui mettre à dos la terre entière. Mais à l'intérieur, il y a cette voix très forte, celle des nationalistes. Et il ne peut pas non plus les faire taire.
Jean-Luc Domenac, Dominique de Rambure, sur la question de Marc Semo, à propos finalement du bilan de Xi Jinping, d'une certaine manière.
Et de la grande déception.
Et de la grande déception, oui.
Moi je crois qu'on n'a pas intérêt à charger la barque quand elle... quand elle tient bien le coup, quand même. Sur la question des libertés, c'est vrai que la poigne du parti sur l'intelligentsia s'est ouverte, s'est fermée d'une façon très brutale. D'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'il s'est passé une chose extraordinaire depuis quelques années, c'est que les Chinois peuvent beaucoup plus facilement voyager. Et ça, c'est essentiel pour la couche sur laquelle repose l'équilibre de ce régime. C'est-à-dire, c'est la question de la bourgeoisie supérieure et moyenne qui entre maintenant dans le progrès, dans la jouissance, dans le voyage. On a vu quand même dans les TGV parisiens français, il y avait que ça cet été dernier, et ils étaient contents. Et ils se racontaient pas des choses. Et il parlait vraiment clairement de ce qui se passait en Chine et chez nous.
Dominique de Rambure.
Oui, je crois qu'il faut rappeler que lorsqu'on veut être un réformateur, il faut d'abord faire partie du système. Hein. Si vous êtes à l'extérieur du système, vous n'avez aucune chance de le réformer. Bien. Donc que ce soit Deng Xiaoping ou Xi Jinping, il faut d'abord être un bon communiste, un apparatchik, suivre... Voilà. Donc il me paraît, et c'est tout à l'honneur d'ailleurs de Deng Xiaoping, c'est qu'il faut radicalement, lorsque vous allez au pouvoir, changer de dimension. Bon. Alors le problème, c'est que Xi Jinping, comme vous l'avez fait remarquer, a été... conduit et porté au pouvoir par une fédération, une alliance qui réunit un certain nombre de... Bon, alors tout ça, ce sont des manœuvres qui se passent dans l'ombre, dont qui apparaissent rarement à la surface, et il faut l'incident Boxilai pour que brusquement ça ressort. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au moment de Boxilai, vous étiez sans doute à Pékin, Xi Jinping a disparu. Oui. Pendant 15 jours, pendant l'arrestation, au moment de l'arrestation de Boxilai, Xi Jinping n'était plus là. L'air de dire, moi, je suis plus mêlé aux affaires quotidiennes, etc. Donc, le problème pour lui, ça va être de réaliser cette transition entre, d'une part, l'État et le marché. Il faut que l'État décroche, lâche les pouvoirs auxquels il se cramponne pour passer à une société de marché où ce sont les consommateurs qui décident. Et à mon avis, là, il y a un enjeu qui est extrêmement difficile pour le Parti communiste.
Sans compter qu'il y a un élément qu'on n'a pas évoqué, on n'a pas eu le temps, mais qu'il faut peut-être mentionner, c'est la question du climat qui pèse aussi considérablement, parce que Jean-Luc Domenac nous dit effectivement qu'on a de plus en plus de Chinois dans nos TGV français, mais ils voyagent aussi à l'intérieur de la Chine, mais pas toujours pour des raisons espérées. C'est-à-dire que vous racontez très bien dans un article combien il est étonnant de voir aujourd'hui les Chinois, les Chinoises s'empresser d'aller s'informer pour essayer de trouver un petit lopin de terre où on peut respirer, avoir une eau à peu près potable. Ça va être aussi un vrai enjeu qui va peut-être pousser aussi à ces réformes.
La base de soutien de Xi Jinping et du parti actuellement, c'est la bourgeoisie urbaine. Voilà. C'est les 300 millions de personnes dans les grandes villes qui sont sur les côtes. Alors, eux, c'est leur base. Absolument. Et eux sont pour la continuation du système.
Voilà.
Mais à condition qu'ils puissent continuer à respirer, que leurs enfants ne naissent pas avec des cancers à la naissance, et que quand ils mangent quelque chose, ce ne soit pas totalement frelaté, et que l'eau qu'ils boivent ne soit pas pleine de métaux lourds, etc.
Sauf que c'est le cas aujourd'hui, et de plus en plus.
C'est le cas. Et donc, il y a une énorme insatisfaction au sein de cette classe qui est la base sociale du parti.
C'est ça la menace pour Xi Jinping.
Mais bien sûr, c'est celle-là, c'est pas les Ouïghours, c'est pas les Tibétains, c'est pas les Mongols, c'est la bourgeoisie, la classe moyenne des grandes villes.
D'une certaine manière, c'est une bonne nouvelle pour la planète.
Bah oui.
Parce que ça veut dire qu'il va faire de véritables efforts.
Mais déjà.
Sur l'environnement, bien sûr, ils ont signé évidemment l'accord de la COP21.
Absolument, mais... absolument. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement d'intérêts. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Les intérêts qu'on retire de violer toutes les choses qu'on signe et toutes les réglementations se chiffrent en tellement de milliards de dollars que c'est très difficile d'appliquer les belles choses qu'on signe.
Jean-Luc Domenach, ça sera le dernier tour de table.
Non, ce que je pense, c'est que Madame Gauthier a tout à fait raison de dire que si ça se gâte, alors entreront en jeu des moyens de puissance, de violence qu'on n'imagine même pas.
Ouais. Dominique de Rambure, en guise de conclusion.
Juste un mot. Je crois que la cause de la pollution est relativement partagée par la direction du parti. J'ai jamais entendu ou j'ai jamais lu de déclaration remettant en cause. Vous parliez de la corruption. Là, c'est pas du tout la même situation. Un an après le lancement de la campagne de Xi Jinping, vous avez Hu Jintao et Jiang Zemin qui ont fait une déclaration simultanée, sinon commune, pour rappeler que la campagne de corruption c'était très bien, mais qu'il fallait pas exagérer parce que ça risquait de mettre en péril le pays. Donc, je crois que Xi Jinping a une ouverture, il peut en profiter, je ne sais pas s'il saisira l'occasion.
Très grande scène rock, nous dit Ursula Gauthier en Chine. Alors là, c'est du rap, hein, c'est des rappeurs, c'est Purple Soul, c'est un groupe de rap de Pékin.
Oui, alors il y a une grande scène underground qui est vraiment extraordinaire et il y a des spécialistes américains qui sont en adoration devant ces jeunes groupes et il paraît qu'ils ont une liberté d'esprit, une liberté de création qui est extraordinaire. Mais c'est une chose qu'on avait vue à l'époque de l'Union soviétique, n'est-ce pas?
Mais celui-là, c'est pas mal, hein, Purple Soul. Un bon groupe. Merci beaucoup à tous, évidemment. Ursula Gauthier, Jean-Luc Domenach, Dominique de Rambure et bien sûr notre partenaire Libération, Marc Semo, comme chaque vendredi.